Vous écoutez RFI, il est midi à Berlin et à Paris, 11h en temps universel.
Guillaume Ouattara.
À la une de ce journal, dernière valse pour Olaf Scholz. Dans ses vœux adressés à la nation allemande, le chancelier qui a perdu le vote de confiance mi-décembre dénonce l'influence d'Elon Musk dans les élections de février sans vraiment le nommer. On décrypte ça dans un instant. Le recul des droits des femmes se poursuit en Afghanistan. Les talibans leur interdisent désormais de travailler dans des ONG. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme leur répond. Dans cette édition également, le réveillon en Outre-mer. Alors que la visite ministérielle s'est conclue à Mayotte, les festivités du 31 décembre sont sous haute surveillance dans de nombreux territoires ultramarins. Des couvre-feux ont même été décrétés, vous l'entendrez. Et puis politique française, quelle année, dissolution, motion de censure, 4 premiers ministres en un an. Un record inédit pour la 5e République, ce sera notre reportage. Olaf Scholz présentera ce soir ses vœux à ses concitoyens en Allemagne pour la 4e fois. À 2 mois des prochaines élections mal engagées pour le chancelier, le chef du gouvernement plaide pour la cohésion malgré les épreuves que traverse le pays. Olaf Scholz qui attaque aussi sans le nommer le milliardaire américain Elon Musk qui a attaqué le chancelier et qui soutient ouvertement le parti d'extrême droite, l'AFD. Le décryptage est signé Pascal Thibault.
L'attaque meurtrière de Magdebourg contre un marché de Noël qui a fait 5 morts et 200 blessés, les difficultés de l'économie allemande, la guerre en Ukraine, Olaf Scholz rappelle dans ses vœux que son pays est secoué par des crises et des défis d'envergure. Le chancelier qui rend hommage aux secouristes et aux médecins de Magdebourg, ou encore aux étrangers qui contribuent à la réussite de l'Allemagne, plaide pour plus de cohésion et de solidarité. Ne nous laissons pas diviser par qui que ce soit. Olaf Scholz s'en prend également sans le nommer à Elon Musk, qui sur sa plateforme X et dans une tribune dans la presse allemande a pris fait et cause pour le parti d'extrême droite AFD. Le milliardaire américain a également qualifié le chancelier d'idiot incompétent.
Vous allez décider de l'avenir de l'Allemagne et non des propriétaires de réseaux sociaux. On peut parfois avoir l'impression que les opinions les plus extrêmes obtiennent le plus d'attention, mais ça n'est pas celui qui crie le plus fort qui décide de l'avenir de notre pays, mais l'immense majorité composée de personnes respectables et raisonnables. Et cela vaut aussi pour les prochaines élections du 23 février.
À moins de 2 mois des élections, le Parti social-démocrate du chancelier reste largement distancé par les chrétiens-démocrates. L'alternative pour l'Allemagne arrive en 2e position dans les sondages avec 20% des intentions de vote. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En Afghanistan, l'ONU a demandé mardi aux talibans d'annuler leur décision d'interdire aux femmes afghanes de travailler pour des ONG. Une mesure qualifiée de profondément alarmante par le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk. Cette directive menace de révoquer des licences des ONG employant des femmes, aggravant la situation déjà critique des droits des Afghanes. Et puis aux États-Unis, 5 millions de dollars, c'est la somme que Donald Trump va devoir verser à Elizabeth Jane Carroll, ancienne journaliste agressée sexuellement dans les années 90 par le nouveau chef d'État américain. Confirmation par la justice civile de la condamnation du mania des affaires, alors que plusieurs poursuites pénales fédérales contre lui ont été abandonnées. Donald Trump reste civilement redevable de centaines de millions de dollars dans plusieurs affaires, notamment pour des fraudes financières et des propos diffamatoires. RFI 14h03 à Mamoudzou. François Bayrou réaffirme la détermination de l'État à empêcher la reconstruction de bidonvilles après le passage du cyclone Chido à Mayotte. Depuis la Réunion, le Premier ministre a déclaré que l'État interviendrait face à la prolifération des habitats précaires. Et en ce 31 décembre et dans de nombreux endroits du monde, il va y avoir des célébrations, évidemment, pour le passage à la nouvelle année. À Paris, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est ce qu'annonce le préfet de police Laurent Nunez ce matin, précisant que la menace terroriste était toujours forte. Bonjour Théo Prouveau.
Bonjour.
Du service France de RFI. Alors comment est-ce que cette Saint-Sylvestre va se passer dans les territoires d'outre-mer ?
Alors, on commence par la Nouvelle-Calédonie où il est 22h. Cette année, un couvre-feu a été instauré dans 4 communes, Nouméa et 3 des villes proches, Dimbéa, Païté et Mondor. Les riverains ne pourront pas circuler dans les rues entre 1 et 6 heures du matin. Cela va donc se traduire par des repas ou des soirées qui se termineront beaucoup plus tôt que d'habitude. Et puis, ce sera également moins brillant. Comme dans d'autres villes, les autorités ont interdit l'utilisation de feux d'artifice. Pas de vente ou de transport de produits combustibles ou corrosifs non plus sur l'ensemble du territoire calédonien jusqu'au dimanche 5 janvier inclus. Des habitants de Mondor que nous avons contactés il y a quelques minutes Brit raconte que c'est beaucoup plus calme que d'habitude. Ils n'entendent pas de musique. L'embarcadère, qui permet de quitter la localité enclavée, est fermé depuis 19h, heure locale. Pour ceux qui se trouvent chez des amis, ils prévoient de dormir sur place.
Et alors, comment va se passer cette nouvelle année dans les autres territoires ultramarins?
Alors, en Martinique, pas de couvre-feu, mais la situation reste tendue après les émeutes contre la vie chère. Hier, Roderick Petitot, le chef du mouvement contre la vie chère, s'est vu refuser sa demande de remise en liberté. Il doit être jugé dans moins d'un mois pour violation du domicile du préfet. À Fort-de-France, le spectacle de drones prévu pour ce soir a été annulé. C'était l'une des festivités de ce qu'on appelle les Boucans de la Baie, qui fêtent cette année leur 25e édition. D'autres attractions sont reportées et non pas annulées. Elles auront lieu début janvier. Et puis à Mayotte, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, ce ne sera pas non plus un réveillon festif. Une partie des habitants n'ont toujours pas l'eau ou l'électricité. Les communications se rétablissent progressivement, mais pas forcément pour garantir l'envoi de messages aux familles éloignées. Il ne faut pas oublier que le cyclone Chido y passait il y a 2 semaines, et tous ceux qui tentent de soigner, de réparer ou de remettre des bâtiments en état sont plus fatigués que d'habitude.
Merci beaucoup pour ces explications, Théo Provost du service France de RFI. En France, toujours noté qu'en l'absence d'un budget pour 2025, le gouvernement a reconduit mardi les crédits 2024 par décret, conformément à une loi spéciale adoptée mi-décembre. Ce décret, publié au Journal officiel, permet de poursuivre les dépenses publiques à hauteur de 492,9 milliards d'euros sur la base des crédits votés pour 2024. RFI midi 6 à Paris et le reportage de ce midi, c'est la suite de notre série sur les moments importants de l'année 2024. Avec ce matin la politique française, Raphaël Delvolvé 2024 restera dans les annales puisqu'elle fut marquée par la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron.
Le coup de tonnerre survient le 9 juin vers 21h.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Une heure avant cette annonce retentissante, le camp du président vient d'encaisser une très lourde défaite. Ce sont les élections européennes.
À la première place, le Rassemblement national de Jordan Bardella, 31,5% des suffrages.
Les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel.
Ce score inédit de l'extrême droite justifie en partie la dissolution pour Emmanuel Macron. Les conséquences sont énormes.
Nous sommes tombés d'accord sur le fait de travailler à des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions.
Je suis venu ici pour vous annoncer ma candidature.
Nous avons besoin d'une alliance avec le Rassemblement National.
La gauche déchirée pendant les européennes se réunit. François Hollande revient dans l'arène. Éric Ciotti, le patron des Républicains, rejoint Marine Le Pen sans toutefois convaincre le reste de son parti. Les cartes sont rebattues. Une campagne express de 3 petites semaines démarre dans une ambiance parfois tendue.
Quand on fait du racisme anti-blanc, madame, c'est quoi pour vous ?
Qu'est-ce que ça veut dire, le racisme ?
Le premier tour des législatives confirme la percée de l'extrême droite.
Et c'est donc le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête de nos estimations avec 34%.
La primature tend alors les bras au RN, mais l'entre-deux-tours verra se dresser face à lui le Front républicain.
Dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature.
Ça fait pas plaisir de devoir faire barrage en utilisant un autre bulletin. Je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire.
Les désistements douchent les espoirs du RN.
Le premier parti à l'Assemblée nationale sera le nouveau Front populaire. Vient ensuite la coalition présidentielle. À la troisième position, le Rassemblement national et ses alliés.
Mais dans la nouvelle Assemblée, divisée en 3 grands blocs, personne n'a de majorité nette.
Personne n'a gagné.
La gauche, forte d'un plus grand nombre de sièges, revendique Matignon. Mais Emmanuel Macron temporise pendant les Jeux Olympiques et une alliance fragile entre le bloc central et la droite classique permet la nomination de Michel Barnier à Matignon en septembre.
Nous sommes dans l'état d'esprit de respect et de dialogue.
Il ne restera que 91 jours en poste, renversé sur son budget par une motion de censure votée par la gauche et l'extrême droite.
Le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement.
En lui succédant, François Bayrou devient le 4e Premier ministre de l'année, du jamais vu même sous la très instable 4e République. La vie politique française n'a sans doute pas fini de sentir les répliques du séisme de cette dissolution que beaucoup jugent encore aujourd'hui incompréhensible.
Voilà pour cette drôle d'année politique. Reportage signé Raphaël Delvolvé pour RFI. Notez que la Corée du Sud a annoncé ce mardi l'ouverture d'une enquête sur la conformité du mur de béton de l'aéroport international de Muan, percuté dimanche par un avion de Jeju Air lors d'un crash ayant fait 179 victimes. Il est quasiment midi et 10 minutes à Paris. Retour de l'information dans 20 minutes sur la radio du Monde. Tout de suite, c'est Grand Reportage.